Merci beaucoup, Marie-Françoise.
Oui.
Double en fait par rapport à ce que vous venez de dire justement en terminant, c'est finalement au moment de Théodose qu'arrive l'Esprit Saint, d'après ce que vous expliquez, enfin, la notion de l'Esprit Saint, et vous disiez auparavant justement que c'était Saint Paul qui avait dit qu'avait transformé le christianisme en religion universelle, mais pourtant justement dans l'Évangile, génération faite des disciples, les baptisants ont perdu.
D'abord, on en parlait tout à l'heure avec les théologiens, en parlait dans la réunion que j'ai quittée. Il n'y a qu'une seule mention évangélique dans l'Évangile de Matthieu. C'est pas un des thèmes les plus répandus. C'est pas un des thèmes les plus répandus des quatre évangiles dans leur totalité.
Non, mais c'est cité dès le départ.
Dans un évangile, c'est la finale de l'Évangile de Matthieu. C'est important. On fait plus attention aussi maintenant, même les théologiens, qu'il y a quatre évangiles, qu'on a laissé se juxtaposer. Et donc, il y a des affirmations, des énoncés qui sont plus particulières, et ça, on voit en mission de l'évangile de Matthieu, universaliste et particulier, d'autres qui sont au contraire répandus dans les quatre évangiles.
Mais donc, par rapport au fait que c'est Saint Paul qui transforme, vous disiez que c'était Saint Paul.
Ben oui, parce que c'est le texte le plus ancien, l'évangile de Matthieu est postérieur de 40 ans à Paul.
Mais donc, ça sous-entend que, en fait, c'est Paul qui le met dans l'évangile, en quelque sorte, enfin, qu'il l'a inclus dans l'évangile.
C'est une évangile de Paul, parce que Paul dit qu'il a son évangile. Comme je vous ai dit, évangile, c'est pas un livre. C'est la transmission du message de Jésus de Nazareth identifié comme Christ. Donc Paul, il dit souvent, j'ai mon évangile, suivez mon évangile, pas celui des autres. Mais donc, on pense que l'évangile de Matthieu a été composé à Antioche, enfin, a été mis en forme à Antioche, qui est aussi la communauté chrétienne auquel Paul s'est rattaché depuis le départ. Donc, universaliste, c'est un objectif missionnaire de l'église d'Antioche. Si vous les retrouvez sur les deux.
J'avais une autre question, si vous permettez. Vous mentionniez que lorsque arrivent les événements dramatiques de 70 et de 135 pour les Juifs, les Juifs sont déjà en pleine diaspora. Pourtant, la diaspora n'est pas issue du fait que...
Ah non, pas du tout. Pas du tout. La diaspora, elle commence immédiatement par la conquête d'Alexandre. Au 3e siècle, à la fin du 4e siècle avant notre ère. La diaspora. Mais il faut aussi voir, il y a une diaspora mésopotamienne qui va produire le christianisme syriaque à cette époque-là. Elle remonte au lendemain, à l'exil à Babylone, monte au lendemain même de la conquête d'Alexandre. La diaspora d'Asie mineure, elle remonte aux années 200, le règne du roi Séleucide d'Antiochos III, et la diaspora romaine en 63 avant notre ère. Donc vous voyez que la diaspora est déjà très très répandue au moment où est diffusé l'évangile.
Donc l'image d'Épinal, entre guillemets, que les Juifs se font sortir d'Israël par les Romains après 70 et après 135, c'est pas...
Non, l'essentiel de la diaspora, c'est très bien montré par les historiens juifs du judaïsme, c'est une émigration militaire. Les Juifs, c'est pas du tout non plus les marchands, hein, comme au Moyen-Âge. Les Juifs s'embauchent comme mercenaires dans les armées hellénistiques. C'est ça, le sens de la diaspora. Et donc, ce qui montre que le 3e siècle est l'apogée de la diaspora, par exemple, de l'Asie mineure, c'est l'archéologie. Les magnifiques synagogues monumentales en Asie mineure sont du 3e siècle de notre. Donc, on distingue bien maintenant donc, le drame du judaïsme judéen, comme on dit, après les événements de 70-135, qui a fait disparaître donc des grandes spiritualités du judaïsme. Il n'y a plus de pharisiens, il n'y a plus d'esséniens. Oui, mais ça ne touche pas. Donc la diaspora continue à vivre et à faire évoluer le judaïsme. Oui.
Une petite question concernant les femmes. Les premiers compagnons du Christ étaient pour certains mariés, Pierre. Est-ce que j'ai lu, c'est que le concile d'Elvire, l'Église interdit aux membres du clergé de prendre une épouse par souci d'élégation morale.
L'Église interdit
de prendre une épouse.
Par souci d'élégation morale, et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au premier concile de Nicée que vous avez cité, elle interdit même de cohabiter avec une femme. Est-ce que vous savez ce qui a motivé cette décision? En fait, l'Église, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en 305, parce que ça m'a toujours troublé.
En 305,
l'Église interdit aux membres du clergé de prendre des femmes pour des questions d'élévation morale. Et visiblement, en 325, lors du concile de Nicée que vous avez cité, cohabitation avec les femmes, étant entendu qu'on est.
On est clergé? Mais le clergé est marié, c'est tout.
Oui, mais moi, c'est ce que j'ai lu. Alors après, effectivement, mais c'est en 1239.
Vous avez vu ça où?
Sur la charge que j'ai pu faire sur.
Mais sur quoi? On a fait une audition, il y a une affirmation parallèle en 305, qui ne veut aucun signe de vrai concile en 305.
Et alors, moi, ce que j'avais noté, c'était le concile d'Elvire. J'en sais rien. Si je vous pose la question, je ne sais pas. Mais effectivement, quand on glane de l'information et qu'on n'est pas forcément aussi bien sourcé que vous, c'est intéressant de la partager.
C'est au 10e siècle,
le célibat
est imposé. Alors ensuite,
pour
à ce moment-là, aussi d'Elvire, si mes souvenirs sont bons, on édicte que on ne choisira pour évêque, comme chef de la communauté, que quelqu'un qui n'aura été marié qu'une fois. Puisqu'on est arrivé, toutes ces époques, à deux fois par mariage. Et donc, un évêque, il y a déjà l'idéal de la chasteté qui commence à poindre, qui va se développer essentiellement au 4e siècle. Donc, il faut qu'un évêque soit marié, comme tout le monde, il doit avoir des descendants, des héritiers. Mais avec cet aspect, on ne prendra pas d'évêque qui était marié, veuf et marié deux ou trois fois. Je ne veux pas du tout, alors là, au concile de Nicée, je ne veux pas du tout de disposition du concile de Nicée qui touche au mariage.
Je comprends que
le mariage du lien. Et là, je vais être avec ça. Dans les lettres d'évêques que j'ai eues à dépouiller, un évêque d'Éphèse, quand c'était d'Asie mineure, met comme un titre de légitimité, quand il discute avec l'évêque de Rome, qu'il est le neuvième évêque de sa famille. Donc, un évêque doit être marié au moins une fois, comme tous les responsables de cette époque-là, tous les magistrats. L'hérédité est très forte dans les charges officielles. Il doit être marié une fois, parce qu'il doit avoir des héritiers. Et relisez, ce qui devient un texte canonique, relisez l'Épître à Timothée, on vous dit que l'évêque, celui qu'on choisira comme évêque, c'est d'abord un bon chef de famille, qui sait gérer ses enfants, qui sait gérer son patrimoine. Donc, il est marié une fois. Après, donc, la chasteté commence à dire qu'il ne faut pas en faire trop. Une fois qu'on a un héritier, ça suffit. Oui.
Bon, alors, j'espère que je vais vous poser des meilleures questions.
Je vais vous poser des questions, on cite la source, quand même, parce que bon, pour citer lui, oui, je suis d'accord pour les évêques.
Vous avez dit, je ne m'en parle pas. Effectivement, il y a eu un essaimage, finalement, de la religion avec, j'allais dire, des constellations de points. Essentiellement, vous avez dit.
La source est un peu excessive.
Bon, alors, vous avez
mis des constellations. Semi de points.
Bon, très bien. Asie mineure, Syrie, Afrique. Et alors, pourquoi cette légende de Marie-Madeleine, hein?
C'est très sérieux. Après, au 4e, entre le 4e et le 8e siècle, ces régions tardivement atteintes par l'Évangile, dans la péninsule, mais en Italie aussi, parce qu'en Italie, en 311, vous n'avez même pas une dizaine d'évêques, comme hein, une dizaine d'églises. La partie latine, à part l'Afrique, a eu du mal à plus d'étapes sur l'Évangile. Donc, à partir du. On a refaire le roman de ses origines, et remonter à l'époque apostolique. Donc, c'est Marie de Magdala, et les sept Maries de la mer pour la Provence. De même, tous les évêques comme Saint-Denis à Paris, avec sa tête décapitée, là, s'est rattaché à la persécution de 250, mais sur aucune base historique. Et quant à Saint-Jacques de Compostelle, c'est Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, qui a été mis à mort par un Hérode dans les années 40, 40-42, donc, mis à mort très tôt, puis en Espagne. Et c'est au 8e siècle qu'on l'installe en Espagne comme témoin donc d'une évangélisation qui s'est inventée à l'époque apostolique. On trouve un sarcophage un peu plus ancien, et comme on sait quand même par les Actes des Apôtres qu'on lit à la messe qu'il a été tué en Palestine dans les années 40, on estime que son corps a été déplacé. Ça, c'est vraiment national, une roman chrétien. Mais on s'est rendu compte en faisant ce livre qui circule que les gens avaient du mal à penser que la Provence avait été évangélisée très tard. Aussi parce qu'il n'y a pas de diaspora juive en Gaule, là, au ciel.
Une remarque sur la diaspora, le lien avec le dynamisme christianisme et la diaspora juive. C'est des milieux très éduqués, effectivement.
Voilà. C'est des milieux. Milieux très éduqués. Ce qu'on voit, par exemple, c'est des gens qui se convertissent au christianisme et qui, avant, ont eu une formation biblique à la synagogue. Il faut se dire aussi que dans l'Antiquité, peut-être que ma collègue n'a pas du polythéisme, l'éclectisme religieux est très bien perçu. Contrairement à nous, quand on cherche la vérité, quand on cherche sa voie, admis de passer d'une secte à une autre, c'est vrai pour un juif comme bienvenu Joseph, qui a fait trois sectes, c'est vrai sans doute pour Paul, c'est vrai comme Justin Martyr, Justin de Rome, qui a fait aussi trois sectes philosophiques avant de se convertir au christianisme. Donc on a le cas de témoignages autobiographiques de chrétiens qui disent qu'ils sont arrivés au Christ en passant par une culture biblique qu'ils ont reçue à la synagogue, les emmener leurs parents, si c'est des concrets. Oui, mais ça c'est la question, il ne faut pas non plus trop forcer. Quand Paul Veyne, romaniste bien connu, notre maître à tous, dit que le christianisme est une religion intellectuelle virtuose, c'est pas vrai, c'est assez vrai. Mais c'est vrai, et justement maintenant les hérésies, ce qu'on appelle les hérésies, qu'est-ce que ça veut dire hérésie? Ça veut dire s'associer par affinité, c'est-à-dire créer un particularisme dans l'opinion majoritaire de la grande église. Donc c'est pas forcément négatif au départ, hein, ça demande d'examen, et c'est vrai que c'est un réflexe de recherche intellectuelle. Tous les pères de l'église sont des grands intellectuels. Oui.
Une question justement concernant la sociologie du christianisme dans les premiers siècles. On parle d'un certain nombre de lettrés qui nous ont laissé justement des traces écrites, mais justement on a un moyen de savoir quelle était la composition des communautés chrétiennes.
C'est ce qu'on fait maintenant sur la base des inscriptions des papyrus, puisqu'on se rend compte que les chrétiens se signalaient encore une fois de façon très discrète, intime, télévisuelle du Christ. De poisson. Et donc, d'abord, les témoignages qu'on a, c'est des témoignages de l'élite, relativement, de gens qui s'écrivent, donc on surface à une pub internationale. Mais nous pensons qu'il faut insister justement sur ce cadre de la maisonnée, d'un extrêmement diversifié. C'est-à-dire que le christianisme du chef son collectif, au moins jusqu'à la fin du IIe siècle, si un chef de famille se convertit, il fait bâtir toute sa famille, sa familia, ses esclaves, ses domestiques, etc. Donc, c'est vrai que ceux sur lesquels nous sommes documentés par la force des choses sont des notables, je dirais, mais qu'on voit bien par d'autres récits que ça déborde sur tous ceux qui les entourent, quel que soit leur statut, clairement.
Et notamment, ça touche ville comme campagne.
C'est ce qu'on trouve aussi. On a pensé longtemps que c'était une christianisation du milieu urbain, les marchands, une petite Saint-Paul, je vais dans les ports, je prêche, j'ai des marchands, Saint-Paul. Justement, par le biais des esclaves. C'est-à-dire, et puis aussi une situation de fortune qu'on connaît mieux. Un notable avait forcément une résidence en ville et une propriété à la campagne qui faisait vivre. Comme jusqu'au XIXe siècle, les guerres de l'île, etc. Et donc, il y avait un va-et-vient du maître de la familia, de la maisonnée, entre la ville et la campagne. Aussi, les esclaves pouvaient être domestiques à la maison de vie, puis à un autre moment, envoyés à la campagne. Là, je résume, c'est deux des actes des martyrs, où on voit ainsi le christianisme pénétrer la campagne par ses déplacements, depuis la ville, par ses déplacements. Donc maintenant, on a revu cette idée-là, que les campagnes n'ont pas attendu Saint-Martin à la fin du IVe siècle pour être évangélisées, mais qu'il y avait déjà un va-et-vient. C'est tout le potentiel qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui que l'église de Maisonnet, qui est un peu au centre là, du livre qui circule. La dynamique missionnaire que portait cette structuration de l'église de Maisonnet.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les évangiles apocryphes et pourquoi on a éliminé les évangiles?
Alors, je dirais que les évangiles apocryphes, vous avez deux volumes de la Pléiade. Il faut se dire qu'ils ont été extrêmement lus, puisque c'est eux, finalement, qui ont inspiré toute l'iconographie, la fuite en Égypte, la Sainte Famille sur son âme, tout ce qu'on peut avoir dans l'anecdotique. Dans l'art chrétien pendant des siècles et des siècles, la célébration, ça vient des apocryphes. Alors, on disait au début que donc les apocryphes, c'est des parties de la littérature qui abonde au IIe siècle pour répondre à la sensibilité aux questions que se posent les chrétiens. Et c'est après, donc, une sélection correspondant à la sélection du canon, des textes canoniques, qui vont être considérés comme apocryphes. C'est-à-dire non pas normatifs. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont plus supportés par une communauté chrétienne suffisante. C'est surtout ça que ça veut dire, finalement. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, on coche qui est bon, on coche qui est mauvais, des choses comme ça. Non. Mais voilà, ils sont plus nus, ou ils sont très plus nus. Donc, c'est qu'en fait, ils ne sont pas constitutifs de la sensibilité chrétienne. Alors, ils reprennent toutes les formes d'écriture qui étaient celles du Nouveau Testament. Donc, des évangiles, des actes apocryphes des apôtres, des épîtres, des passions, puis alors, des lettres, on le prête pour riche, vous avez des lettres de Pilate, vous avez une lettre au philosophe Sénèque. Alors, ils embellissent, en fait, je dirais que c'est des expressions de l'individualisme chrétien, justement, de l'église particulière isolée, qui embellit sa propre histoire. Ah ben oui, mon fondateur, il a écrit un sénèque. C'était bien. Et pour moi, l'expression d'une sensibilité particulière, d'une communauté, et qui n'est pas soutenu par les autres, donc qui finit par tomber en désuétude. On disait plutôt, il y a quelques années, quand on a commencé en 1980 à s'intéresser aux apocryphes, que c'était des romans. Et ça pose la question qui est très étudiée en même temps, que peut-être aujourd'hui, peut-être mes collègues du judaïsme ont abordé aussi, ça pose la question donc de la littérature romanesque, de l'utilisation de la littérature romanesque, pour distraire, pour faire pleurer, pour faire rire, dans la convocation religieuse. Ça paraît être très répandu dans l'Antiquité, dans le judaïsme. Vous avez un roman latin, les Métamorphoses d'Apulée, qui est le récit d'une conversion sous une forme aussi à Isis, et sous une forme aussi très romancée. Donc, quand on a commencé à travailler sur les apocryphes, en 80, c'était sous cet angle-là. C'était, comme disait le saxon, profit ou utilam. Il fallait enseigner la catéchisme, en quelque sorte, profit, mais sous une forme attrayante, sentimentale, romanesque, utilam. Moi, je dirais plutôt que c'est l'expression d'une sensibilité particulière, et qui après n'est plus soutenue dans l'édition.
D'après ce que vous expliquez, la reconnaissance des évangiles, de certains évangiles par rapport aux évangiles apocryphes repose avant tout sur la communauté et pas sur le fait qu'un certain nombre de clercs aient décidé en...
On voit très bien que Donc tout fonctionne par citation. Évidemment, on a quelques bibliothèques en Égypte, des bibliothèques ont été retrouvées, mais on en a assez peu. En fait, on reconstitue la bibliothèque des pères de l'Église par les citations qu'ils font quand ils échangent leurs lettres. C'est un apport secondaire, primaire d'ailleurs, du chrétien. Et donc, on voit très bien que les idées qui s'imposent et puis celles qui disparaissent. Et à partir du moment... Après, ça rejoint l'archéologie. Dans le but de la théière, ils expliquent ça très bien. À partir du moment où une idée ne s'impose plus, n'est plus soutenue par suffisamment de communautés, suffisamment de chrétiens, on arrête de copier les textes. Donc c'est comme ça que vous les trouvez enfouis, comme dans une idée bizarre juive, en fait, vous les trouvez enfouis dans la galerie ou ailleurs. Il y a ça aussi, on ne cite dans ses lettres et on ne recopie que ce qui intéresse, ce qu'on partage comme acte de foi. Donc si on ne fait plus, donc c'est pas du tout hein, des jugements solennels. Il y a des controverses organisées où on a des récits, où on met ensemble un livre qui vient de paraître, l'évêque dit ça avec ses presbytes au sein d'une communauté, et on en discute, oui ça existe. Mais le phénomène canonicité et apocryphéité, ça relève plutôt d'une sorte de sélection qu'on observe. Et après, ce qui l'emporte, c'est la règle majoritaire. Consensuel, le consensus apparaissant comme l'expression de l'unanimité inspirée par l'Esprit Saint.
Petite question, vous avez écrit les 10 313 comme un édit de tolérance, et l'âge de la tolérance, quelque sorte l'âge de la tolérance, qui prendra fin, prendra pas fin, mais
avec Théodore.
Dire que quelque part c'est une sorte de loi laïque où toutes les religions sont considérées ou tolérées.
C'est l'assimilation qu'on fait maintenant, effectivement, de dire que l'Antiquité nous donnait des leçons parce que le pluralisme, on considère le pluralisme comme une situation et un potentiel équivalent à celui de la laïcité. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Ça part sur la constatation un peu naïve, à mon sens, tout au moins. On considère que puisque le polythéisme, c'est la multiplicité, il suffit d'ajouter toujours un culte à un autre, et que la possibilité est indéfinie, et que donc ça règle le problème donc de religion nouvelle qui arrive, et que ça permet d'envisager une évolution naturelle, donc dans ce cadre d'un pluralisme à l'infini, une évolution naturelle, encore une fois, qui porte finalement. Éliminant les religions, puis on assistera à une évolution naturelle par un processus donc de sélection naturelle. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est cette idée que le polythéisme antique, c'est la possibilité d'accumuler des cultes, parce que des dieux d'ailleurs, des cultes à l'infini. Parce que c'est pas ça. Comme le montraient beaucoup de mes collègues, le polythéisme antique, c'est pas une suite indéfinie de dieux, c'est. Il faut que ces dieux entrent dans un système. Et on revient finalement quand même à la notion, au cadre de la notion de religion d'État, de culte d'État. Si quand Isis arrive à Délos, il faut qu'elle rentre dans le cadre du panthéon polythéiste de Délos. C'est-à-dire qu'elle exprime des fonctions divines particulières. Du tout que le polythéisme antique, c'était la jonction de Dieu à l'infini, que certains de mes collègues, comme Bettini, quand il fait l'éloge du polythéisme, le montrent. Alors, on dit donc que les tenants de ce courant disent que la révolution, le renversement de situation, la révolution religieuse serait fait là, naturelle, et maintenant donc un équilibre sur le plan religieux qui permettait le polythéisme. Le monothéisme religieux révélé mettait un point d'arrêt et obligeait donc à des changements plus tôt. Alors la question de la tolérance, on retrouve ça aussi, qu'il faut que la notion de tolérance est associée au pluralisme religieux, au polythéisme. On peut aussi citer, parce que le polythéisme a été persécuteur. Socrate est un persécuté du polythéisme, hein, il y en a eu d'autres, parce que il y a toujours, dans le polythéisme antique, un cadre politique des critères des religions d'État. Donc on y rentre.
Saint Constantin fait de la chrétienté, par exemple.
Ah, il fait du christianisme dans le cœur de l'Église.
C'est ça. Enfin,
un immense merci.
Merci.